Hey, hit. How we gonna lose with shit like this, my nigga?
I once too was a young boy wildin' on tour, running with some of the wildest youngers out of New York. Met some more in Baton Rouge, used to wild how they talk. 19, my girl was pregnant, had to sit with my thoughts. Sit with my thoughts. I had to sit with my thoughts. My family was my motivation, focused on the elevation. I'm attracted, not chasing. We ain't scared of niggas, we rare than niggas. Rope chain hang, diamonds independent. I am independent, she wrote a comment, they pinned it. It got to my attention, we could go viral in minutes. Aspire to win it, I'm spiraling in it. Flip sides of the coin, that's life in the business. Flip publishing, it goes to the highest of bidders. I got them bitter, lows of a winner. That should come with being great, there's a lot on my plate. Never broke again, I'm blacker than the NBA. ESPN couldn't cover all of my highlights. Look at this money machine, I love what it sound like. And Nipsey with the love that I'm working with hit. He might have took me to 6-0 and turned me a crip. It's all money in. XO in my cup, I'm sitting with my thoughts again. Yeah. To OGs and young bosses, we bounce back when we take losses. I pray we all get prayed for. I pray we all can make more. Whole time writing this, I'm typing some people back who need me to get them in places. Type of shit is that? I'm a concierge for most people I know. I'm in the studio with hit, Cash App for my folks. I love it. That shit come with being great, there's a lot on my plate. I would give it all away for a smile on their face. Shout out to rappers who inspired me in my beginnings, who I inspired right back when they pen was dwindling. Sitting with my thoughts, thinking what it cost for peace of mind. I'd go crazy if I couldn't rhyme. I finally took time to drop constant releases. I finally put me first, the intro on the sequence. Don't need a new assistant, I'm just too persistent. Officially efficient, I see it through to the finish. So complete, I'm not a control freak. Personal chef flow, I make sure that we all eat. To OGs and young bosses, we bounce back when we take losses. I pray we all get prayed for. I pray we all can make more. To OGs and young bosses, we bounce back when we take losses. I pray we all get prayed for. I pray we all can make more.
Merci de nous rappeler. Ciao.
Dos de la tarde, 28 minutos en Radio Recuerdo.
Radio Libertaire 89.4, la philanthropie de l'ouvrier charpentier.
Avec les chroniques syndicales.
En invité, il paraît que c'est en invité.
Enfin, l'invité, c'est pas moi, c'est Marc.
Oui, ça, t'as raison. Donc, Marc Perelman, qui va venir nous parler de choses qu'on entend parler dans un peu de partout, mais pas tant que ça, moi, je trouve. On va parler du sport.
Et des Jeux Olympiques.
Bien entendu, l'avatar.
Sachant que dans le Monde Libertaire de cette semaine, il y a un article, les Jeux Olympiques n'ont pas eu lieu.
Ah. Oh.
C'est un camarade qui rêve qu'ils n'ont pas lieu. Quoi. Bon, c'est un texte fondamental, mais c'est bien que d'autres s'en préoccupent que nous. Quoi.
Bien sûr. Donc, Marc, c'est pas la première fois que tu viens autour de cette thématique, puis d'autres fois, on a fait d'autres choses ensemble. Et puis, il y a eu, dans un blog, un article de M. Ribé, une interview de toi qui m'a paru entre autres très important parce que tu revenais quand même aux sources à un moment, aux sources de ce que c'est que c'était une notion de sport, du dépassement. Et tu fais un petit historique qui est plutôt intéressant parce que c'est pas neutre, parce que c'est très politique, mais ça a pratiquement disparu.
Oui, alors quelle est ta question?
Ma question, j'aimerais bien que tu nous reparles un peu de cette critique du sport qu'il y a eu dans les années 70, 80 et qui malheureusement s'est un peu perdue.
Oui, c'est une vieille histoire que celle de la critique du sport, donc il faudrait d'ailleurs peut-être faire un jour vraiment l'histoire. Alors il y a peut-être un historien un jour qui fera des recherches sur ce qu'a été, d'où vient la critique du sport en France, quelle a été son histoire, sa genèse, quel est son devenir aussi. Voilà. Donc, alors moi je fais pas partie, disons, des historiques de la critique du sport. Hein, plus jeune que ça. La critique du sport en France, elle vient essentiellement d'une personne qui s'appelle Jean-Marie Brome. Que j'ai connu dans les années 70. C'était mon prof de gymnastique, tout ça. Enfin, de gymnastique. Mon prof d'EPS, éducation physique et sportive, au lycée, au grand lycée Condorcet. Voilà, donc je l'ai connu au tout début des années 70, mais lui, il avait déjà écrit pas mal de choses sur le sport, en particulier dans la revue Partisan, qui était la grande revue des éditions François Maspero. Voilà, une revue, je crois qu'il y a... qui avait commencé dans les années 60 et puis s'est arrêté en 72. Et dans cette revue, il avait écrit deux articles en 64 et 66. Donc, vous voyez, ça commence à dater tout ça, 60 ans. Bon, qui ont vraiment fondé la critique du sport. Alors, c'était des articles, dans un premier temps. Voilà, si je me souviens bien, ça s'appelait « Forger des âmes en forgeant des corps » et « Sociologie critique du sport » ou « Sociologie politique du sport ». Voilà, deux articles qui ont vraiment donné les bases, quoi, de la critique du sport, où là, il montrait que le sport, c'était pas simplement des résultats, mais c'était aussi un phénomène politique très profond et qui touchait la société vraiment dans toute sa profondeur. Alors, il reliait ça évidemment à l'histoire même de la société, la montée de l'industrie, à laquelle se rattache finalement le sport lui-même. Le sport n'existe pas de toute éternité, il n'est pas éternel, il est né à une certaine époque. C'était ça la grande thèse, disons, de Brome, c'était que le sport, tel qu'on doit pouvoir le définir, l'analyser, est né vraiment avec l'ère industrielle. Voilà. C'était à ce moment-là vraiment que le sport prend au sens politique du terme, au sens sociopolitique du terme, il prend vraiment ses fondements historiques, et non pas le sport tel que les Grecs pouvaient le pratiquer.
On le voit bien. Dans cette période industrielle, il y a vraiment un sport de classe, quoi. Il y a les grands industriels comme au Creusot qui montent leur équipe de foot, et par ailleurs, dans les quartiers populaires, en Grande-Bretagne ou ailleurs, il y a des contre-équipes d'une certaine manière qui se montent aussi, quoi. Et on voit bien que la lutte de classe, elle est aussi dans le sport.
Oui, alors elle est disons que c'est quand même, pour dire rapidement les choses, c'est quand même la bourgeoisie qui met en œuvre le sport tel qu'on le connaît aujourd'hui. Les grandes fédérations, les grandes institutions sportives, que ça soit le rugby, le football, qui naît en Angleterre, berceau classique, comme disait Marx, du capitalisme, ça naît en Angleterre au milieu du 19e siècle. Et c'est vraiment sur la base de cette organisation politique du sport d'équipe, de comment dire, de refus de ce qui se pratiquait avant, les jeux vernaculaires, la soule, etc. Tout d'un coup, on voit comment le sport, à travers sa manifestation, le football, le rugby, ça devient vraiment un cadre incroyablement organisé, avec des règles, voilà, avec des équipes qui s'opposent, avec un arbitrage, avec une fédération qui progressivement se met en place, etc., etc. Donc vraiment l'origine, disons du sport tel qu'on le connaît encore aujourd'hui, qui sera peut-être dépassé dans les années à venir, je sais pas. En tous les cas, pour ce qui est vraiment du sport tel qu'on le connaît aujourd'hui, la forme compétitive du sport, c'est la forme, disons, que l'ère industrielle impose aux sociétés capitalistes et qui naît principalement en Angleterre. Après qu'il y ait eu lutte de classe à l'intérieur même, c'est vrai, mais ça reste mineur par rapport à la puissance, justement, du cadre politique qu'ont donné les public schools et, en gros, dans un premier temps, l'aristocratie anglaise, mais progressivement la bourgeoisie qui, progressivement, c'est vrai, a étendu, disons, sa sphère d'influence et a créé des clubs, alors parfois liés, c'est vrai, à des entreprises, progressivement on voit ce phénomène-là se faire, mais le fond politique, si je peux dire, sociopolitique, c'est vraiment le capitalisme de l'ère industrielle, la forme compétitive, où le sport lui-même devient une forme d'organisation proche de la façon dont le capitalisme organise les masses. C'est-à-dire qu'il faut, il faut des lieux. Il faut des lieux, alors c'est l'usine, et c'est le terrain de sport, puis progressivement le stade. J'avais analysé ça. Et puis, c'est des formes, disons, d'organisation par équipe, avec une hiérarchie, avec des bureaucrates, avec des clubs, avec des fédérations, avec une forme d'internationalisme. La bourgeoisie est très internationaliste. Il voit grand, il voit large. Donc, une extension, disons, de la forme compétitive du sport et du football à travers l'impérialisme anglais. On exporte ça dans les colonies, etc., etc. Voilà. Donc là, il faudrait reprendre tout ça. Et le premier, donc, pour revenir à lui, le premier vraiment qui a montré ça, c'est Brome, et qui a balayé vraiment toutes les analyses ou les non-analyses du sport, qui en faisait simplement un moment, voilà, de simplement de résultats, d'effervescence populaire, de joie de jouer ensemble, etc. Il a montré en quoi le sport est un fondement politique, social, et ça a été assez violent.
Ouais, il y a quand même des contre-pouvoirs. Il y a la FSGT quand même, donc la Fédération Sportive et Hygiénique du Travail, qui tente, dans le cadre de l'éducation populaire, de mettre en place des pratiques sportives non compétitives, au moins dans un premier temps. Après, ça a un peu changé. Voilà. Et puis, il y a aussi Barcelone 36, les contre-jeux olympiques qui auraient dû avoir lieu à Barcelone s'il n'y a pas eu le coup d'État fasciste, enfin, contre les Jeux Olympiques, qui allaient se dérouler à Berlin sous l'égide du nazisme.
Tout à fait. Alors bon, ça, là, tu parles vraiment plutôt de l'histoire des Jeux Olympiques, qui est évidemment liée à l'histoire du sport lui-même. Puisque les Jeux Olympiques sont vraiment la forme, disons, dominante du sport actuel, dont dépendent toutes les fédérations, y compris la fédération de football. On le sait pas trop, mais c'est le CIO, le Comité International Olympique, qui est la gouvernance mondiale du sport, et dont dépendent toutes les fédérations internationales, fédération internationale de football, de rugby, de basket, de boxe, de natation, etc. etc. Et c'est le CIO. C'est, je crois, aujourd'hui une centaine de personnes, avec un comité exécutif. C'est le CIO qui décide de tout, avec parfois des luttes, en particulier avec le football. La FIFA a pris une certaine indépendance vis-à-vis du CIO dans les années 30, tout simplement parce que la FIFA voulait devenir professionnelle et le CIO le refusait. Voilà, donc... ce qu'il faut bien comprendre, c'est ça qui est difficile, c'est d'abord d'analyser les structures réelles du sport. C'est pas quelque chose de comme ça, de flou. Non, il y a des structures incroyablement puissantes. Et ce qui manque d'ailleurs à la critique, je pense, du sport, c'est aussi une analyse, de l'instance dominante qui est le CIO, le Comité International Olympique, qui a été créé par Coubertin, qui est aujourd'hui, depuis quelques années, même pas mal d'années, qui est résident en Suisse, hein, donc qui bénéficie évidemment de toutes les lois suisses, si je peux dire, et qui dirige le sport mondial, hein, qui dirige le sport mondial, voilà, qui dirige les 200 comités nationaux olympiques, hein, plus qu'à l'ONU. Le CIO est observateur à l'ONU. Hein, faut le savoir, hein. Le CIO a réussi à faire reconnaître, je crois en 2009 ou 2015, l'autonomie du sport. Hein, c'est-à-dire qu'on considère, hein, au niveau mondial, hein, des États, que le CIO a une place à part. Hein, à part, c'est-à-dire qu'il fait partie de la communauté internationale, mais avec une voix particulière, une place à part en quelque sorte. Et je pense que le CIO a réussi absolument un coup de maître, hein, de ce point de vue-là, qui est de détenir une puissance à travers laquelle les États, d'ailleurs, les États-nations adhèrent, hein, d'une certaine façon, mais une puissance, encore une fois, autonome. Hein, ce ne sont pas les États qui font partie du CIO, hein, ce sont les fédérations et les comités nationaux olympiques, ce ne sont pas les États-nations. Hein, donc ça, c'est une grosse différence, mais qui a tout à fait son importance. Alors pour revenir à ce que tu disais sur les Jeux Olympiques, alors c'est vrai, par exemple le mouvement ouvrier, l'Union soviétique plus précisément,
c'était
l'URSS,
pas vraiment
la Chine,
le mouvement ouvrier, quand même.
Ouais, l'URSS a adhéré, hein, aux Jeux Olympiques dans les années 50. Hein. Avant, elle ne participait pas. Elle avait ses propres Olympiades, entre guillemets, hein, qu'on appelait les Spartakiades, hein, tout simplement, parce qu'ils considéraient que, vu que précisément le mouvement olympique était un mouvement bourgeois, il fallait créer un mouvement parallèle, alternatif, rouge, en quelque sorte, pour prouver que le muscle rouge était aussi capable de produire aussi bien, si je peux dire, que le muscle occidental. Voilà, mais... Bon, après, il faudrait revenir plus précisément sur cette genèse, disons, de l'histoire de l'Union soviétique avec les Jeux Olympiques. Mais ils intègrent l'olympisme dans les années 50, je crois que c'est en 56, si ma mémoire est bonne. Et ensuite, ils participent complètement aux Jeux, évidemment, aux Jeux Olympiques à part entière. Avec, c'est vrai, les Jeux de 36, les Jeux de Barcelone, des Jeux qui n'ont pas eu lieu. Pour le coup, parce que le jour même, hein, 19 juillet 36, coup d'État de Franco, les équipes, en particulier françaises, sont présentes sur place. Mon père y était, donc je l'ai su. Bon, voilà. Donc il se passe rien. En fait, Barcelone, c'est la guerre. Et certains se battent, hein, certains Français ou certains membres d'autres équipes nationales vont se battre dans les rangs républicains et d'autres rentrent en France par le bateau. Donc les Jeux 36, ce qu'ils appelaient la contre-olympiade, hein, ou l'olympiade populaire, le titre exact c'était ça, l'olympiade populaire n'a finalement pas eu lieu. Bon, alors ça montre, c'est assez symptomatique, hein, de ce que voulait faire à un moment le qu'on peut appeler, disons, le mouvement ouvrier, hein, en tous les cas les partis communistes et leurs satellites, hein, essayaient de créer quelque chose à part, à côté. Et on voit que ça n'a pas duré longtemps, en tous les cas ça s'est arrêté dans les années 50. Pour la Chine, c'est pareil, hein, elle intègre le mouvement olympique dans les années 80. Et c'est vrai pour tous les comités nationaux olympiques qui, aujourd'hui, participent. Je crois qu'il y a 205 comités olympiques, plus que d'États-nations, puisque vous avez les îles Marshall, vous avez Singapour, il paraît que pour 2024, il va même y avoir le Vatican en France, donc on va avoir des coureurs, des athlètes en soutane. Voilà, donc le comité international olympique, c'est vraiment, voilà, c'est cette organisation mondiale, mondialisée, mondialisante, qui aujourd'hui a absorbé toutes les différences pour tout simplement faire sport, hein, ce que le CIO appelle la famille olympique, hein, un terme très important. La famille olympique, c'est tout le monde se réunit autour des valeurs du sport, que sont le respect, l'amitié, que le CIO défend envers et contre tout, et auquel, vis-à-vis duquel, évidemment, la masse des individus, hein, adhère. Hein.
Mais est-ce qu'on aurait pu concevoir un sport autre, dans le sens où, quand tu parles du sport, tu parles tout de suite compétition, tu parles tout un peu. Mais est-ce que vraiment celui qui va faire un footing dans les bois, il est en train de faire de la compétition, ou est-ce qu'il est vraiment intégré, ou est-ce qu'il y a deux formes quand même de sport? Alors de sport, je ne sais pas quel mot utiliser, parce que c'est vrai que les mots sont tellement connotés que maintenant c'est difficile. Mais est-ce que le sport, c'est forcément la compétition? Est-ce que ça ne peut pas être simplement se faire plaisir?
C'est tout le débat, hein. Le terme sport est à ce point polysémique, c'est-à-dire que voilà, il a plusieurs sens, hein. Pour tout un chacun, c'est se promener dans la rue, courir derrière son chien, monter un escalator, rattraper son bus, que sais-je encore, hein.
Monter voilà. les escaliers.
Voilà. Il y a même du sport, sport en chambre.
Sport en chambre, etc.
Et puis quand l'ascenseur est en panne, que tu te fais 12 étages.
Voilà, etc. C'est du sport, comme. Bon, voilà. Non, moi, ce que j'essaie, enfin, c'est pas moi, mais ça, je pense que c'est vraiment Jean-Marie Brome qui a insisté, martelé.
Lui, il était quand même prof de gym.
Voilà, qui a martelé cette question-là. Là, pour lui, le sport est d'abord défini par sa forme compétitive. Et c'est ça qui est dominant. Ce qui ne veut pas dire qu'après, il y a tout type de formules sportives. Je veux dire, hein, sport amateur, sport militaire, sport, etc. Mais ce qui donne le là, si je peux dire, hein, ce qui donne le là, c'est la forme compétitive. Le reste, ça s'organise avec. Mais oui. C'est d'abord la forme compétitive, c'est-à-dire, voilà, ça vient d'en haut. C'est en gros ce qui est défini par le CIO, hein, c'est-à-dire défini les règles de ce que va être le sport. Après, c'est voilà, ça descend le long d'une verticale.
Oui, c'est la majorité, de toute façon.
Voilà. Et c'est ça qui est dominant. C'est ça qui est dominant. Après, que vous vouliez faire du sport, courir dans le bois de Vincennes. Et que vous vous réclamiez d'une forme, disons, sportive, etc. C'est toute l'ambiguïté aujourd'hui du terme sport, et qui pose d'ailleurs le problème de, mais qu'est-ce qu'on entend exactement par sport, hein? Et on court toujours après une espèce de définition du mot sport. Ça montre à quel point, d'ailleurs, c'est un peu ma thèse, hein, ça montre à quel point, d'ailleurs, le sport est devenu aujourd'hui, comment dire, une activité de la vie quotidienne. On le voit comme vraiment quelque chose faisant partie de notre vie quotidienne, et même une activité. C'est vraiment la vie quotidienne en tant que telle maintenant.
Et puis la vie professionnelle, puisqu'on réutilise énormément de notions sportives dans la vie professionnelle. Maintenant, c'est le dépassement de soi au niveau professionnel ou des trucs dans le genre-là, qui était à la base autour du sport. Quoi.
Exactement. Et puis le coaching qui s'est infiltré un petit peu partout pour améliorer les performances.
Voilà, les salles de gym, les tout, enfin, etc. etc. Là-dessus, le monde du travail, s'est imbibé, hein, si je peux dire. Il a été phagocyté par la forme, disons, sportive, la forme compétitive sportive. Bon, avec des formes qui sont à elles, hein, mais encore une fois, le fond de l'affaire, c'est de bien comprendre que que c'est la forme compétitive qui définit, disons, véritablement ce qu'est le sport aujourd'hui. Voilà. Et alors après, on peut discuter à l'infini. Hein. On peut discuter d'un autre sport, d'un sport autre, d'un sport alternatif, d'un sport rouge, d'un sport bleu, d'un sport tout ce que vous voulez. Pourquoi pas, discutons-en. Mais ce qui est avant tout fondamental, c'est ce qui vient d'en haut, c'est ce que impose le CIO, c'est la forme compétitive avec ce que ça signifie concrètement pour les fédérations, les clubs, ce que ça signifie du point de vue institutionnel, du point de vue organisationnel. C'est des rencontres entre des clubs, c'est des rencontres entre des nations, c'est des rencontres entre des fédérations, c'est des rencontres entre athlètes, et c'est évidemment la forme compétitive jusqu'au bout. Hein, c'est-à-dire que ce que demande le CIO, c'est on y va pour gagner. Hein, voilà, il y a un vainqueur et beaucoup de vaincus. Il y a des chronomètres, hein, il y a du temps. Et ce qui est important à comprendre, c'est que cette forme compétitive, c'est celle dans laquelle le temps et l'espace sont totalement réorganisés par celle-ci. Hein, voilà, c'est la compétition qui réorganise à la fois le temps et l'espace. L'espace parce que le sport se pratique pas n'importe où. Le sport se pratique dans des lieux circonscrits, des piscines, des stades, des pistes, des gymnases, des formes, disons, des lieux construits qui sont l'organisation même de la compétition, voilà, qui sont la forme spatiale de la compétition, et le temps. Il n'y a pas de sport sans temps, tout est chronométré. Hein. Tout est chronométré. Ah,
les courses tout est mesuré, il n'y a pas
mesuré,
que le chronomètre.
Bien sûr, mesuré.
C'est en ça que, je veux dire, cette notion qu'on trouve dans les Jeux Olympiques, bien entendu, on le trouve dans, malheureusement, plein de gens qui vont faire du sport pour, soi-disant, se dépasser. Ouais. Se dépasser, c'est dépasser l'autre, en vérité. On parle de soi, mais on parle d'aller plus vite que l'autre, de toute façon, quand on va faire son footing ou des choses dans ce genre-là. Donc la notion de sport comme celle-ci, même s'il est hors des cadres, cette notion de combat, hein, je veux dire, c'est contre soi ou contre les autres, elle est partout dans pratiquement toutes les activités physiques, si on peut appeler les activités physiques. On va faire de l'athlétisme aux gamins. Pourtant, c'est à l'école, c'est des trucs dans ce genre-là. Mais ce qui compte, c'est que tu ailles quand même plus vite et que tu écrases l'autre.
Exactement, exactement.
Ça, c'est un truc qu'on trouve dans toutes les activités physiques.
C'est extrêmement difficile de lutter contre. Hein. C'est bien ça, c'est bien là la puissance absolument, d'une certaine façon, irrésistible, hein, du sport. C'est qu'il est à ce point intégré, ancré, disons, dans les consciences, dans les manières, disons, de faire, d'organisation même de nos sociétés, qu'on le distingue à peine de sa forme compétitive explicite, hein, les compétitions elles-mêmes. Hein, ouais. Et aujourd'hui, tout est un peu compétitif.
À l'école, je veux dire, il va y avoir ça, ce qui veut dire que ça se reproduit dans les classes, ça sera sur les maths, sur français, sur n'importe quoi. Ça va reprendre cette notion de compétition de toute façon. On matraque ça sur le sport, mais ça s'infiltre complètement. C'est-à-dire que l'apprentissage collectif n'a plus de valeur, sauf que si dans le collectif, c'est moi qui domine et qui fait tout. Et donc ça, c'est un truc qui vient quand même pas mal du... Je pense que c'est très difficile d'avoir cette activité physique hors de la compétition.
Tout à fait. C'est bien là la grande difficulté, évidemment d'abord pour le milieu socio-professionnel des profs de PS, hein, qui sont en but, disons évidemment, à se retrouver avec des gamins qui se prennent, qui sont tous identifiés à tel ou tel champion, Mbappé, que sais-je encore. Hein. Voilà, pour qui le sport, c'est avant tout, gagner, quoi. Je veux dire, on n'imagine pas.
Mais
les
profs de gym, il y en a plein qui rentrent dedans aussi.
Bien sûr,
là pour recruter pour leur club à l'extérieur du truc dans le genre-là. Donc il n'y a pas vraiment de volonté des profs de gym. Il y en a. Mais c'est comme dans toute la pédagogie. Il y en a des miettes qui traînent par-ci, par-là.
Voilà, c'est évidemment la difficulté première pour eux de se retrouver face à des jeunes qui sont totalement imbibés de l'esprit de compétition qu'ils perçoivent évidemment ailleurs, par la télévision, par le déchaînement médiatique, disons, autour de nos champions. Vous avez vu les dernières coupes du monde de football, etc. Il y a une espèce d'emprise absolument incroyable du fait sportif qui devient un phénomène qui est à ce point prégnant, à ce point massif, que les consciences, évidemment les plus malléables, en l'occurrence nos enfants, sont vite, disons...
Ils sont absorbés.
On vite absorbé cette affaire-là. Et l'école, de ce point de vue-là, n'est pas vraiment le lieu où on devrait... Enfin, ça devrait être le lieu où, justement, on se tient un peu à l'écart de ça. On devrait dire, dans toutes les disciplines d'ailleurs, y compris dans le PS, on devrait dire que ça ne devrait pas être le lieu de la compétition, du dépassement de soi, qui sont des horreurs du point de vue de l'éthique, mais l'école, elle aussi, est aujourd'hui malheureusement partie prenante. Et on le voit, en l'occurrence, pour les Jeux Olympiques de 2024. Moi, j'étais effrayé de voir, surtout à gauche d'ailleurs, que les édiles, du conseil départemental, par exemple en Seine-Saint-Denis, ne parlent que de ça, du sport à l'école. Y compris, par exemple, dans les cours d'histoire, où on nous dit, vous ferez certes de l'histoire, mais ce qui est important, c'est de faire de l'histoire du sport. L'histoire, donc, des Jeux Olympiques, etc., etc. Donc, il y a une espèce de matraquage autour de ça. Alors, c'est vrai même dans l'école, à tout niveau, de la maternelle à l'université. Ils veulent vraiment que le sport devienne un élément central de la pédagogie dans scolaire, et ça c'est vraiment inquiétant, parce que là, pour lutter contre ça, c'est compliqué.
Et on a peut-être déjà perdu. Bon, on va se mettre un petit point de musique.
Nous engraissons les capitales et ses usines, enchaînés du matin au soir à la machine, pour notre peine des salaires de famine, mais l'union nous rendra forts. Solidarité, mes frères et mes sœurs, solidarité, mes frères et mes sœurs,
solidarité, mes frères et mes sœurs, ensemble nous vaincrons. Mais si un jour nous arrêtons toutes nos machines, mais si un jour nous occupons toutes nos usines, puissant patron, vous aurez alors triste mine, car l'union nous rendra fort. Solidarité, mes frères et mes sœurs, solidarité, mes frères et mes sœurs, solidarité, mes frères et mes sœurs, ensemble nous vaincrons. En combattant pour elle, la classe ouvrière apportera un ordre nouveau sur la terre. Au coude à coude, restons unis, prolétaires, c'est l'union qui nous rend fort. Solidarité, mes frères et mes sœurs, solidarité, mes frères et mes sœurs, solidarité, mes frères et mes sœurs, ensemble nous vaincrons. Solidarité, mes frères et mes sœurs, solidarité, mes frères et mes sœurs, solidarité, mes frères et mes sœurs, ensemble nous vaincrons.
Bonjour, une petite annonce avant de reprendre le cours de cette émission. Le groupe Commune de Paris de la Fédération anarchiste, dans le cadre de ses activités, vous propose le ciné de la Commune avec deux films, Esperanza ou l'école des pêcheurs, suivi d'un autre film, Paul Robin, l'orphelinat de son puits. Cela aura lieu le mercredi 18 octobre à 20h. À la librairie Publico 145 rue Amelot, métro Oberkampf ou Fille du Calvaire. Je repasse le micro au studio. Alors, monsieur que j'ai passé, c'est IWV Lyric Song, Solidarité, une chanson qui était apparemment, émanant des carnets de chant de l'IWV. Voilà, je repasse le micro.
Voilà, Radio Libertaire.
Alors, Radio Libertaire, c'est deux émissions en une ou...
Non.
Non, c'est une émission en
non,
deux.
Non, c'est un concentré d'intelligence dans une seule émission.
Voilà, et donc il y a les chroniques syndicales.
Ouais, mais ça c'est accessoire. Et il y a la philanthropie de l'ouvrier charpentier.
Voilà, et donc on va revenir, on était avec Marc Perelman, qui a écrit un ouvrage dont tu rappelleras le titre et l'éditeur, Marc, sur les Jeux Olympiques de 2024, qui n'auront peut-être pas lieu, enfin, encore que je crains que si. Malgré tout.
C'est perdu.
Et je reviendrai même sur la question de la reproduction, parce que cette organisation du sport très pyramidale, on la retrouve à l'école, on la retrouve partout. C'est-à-dire que d'une certaine manière, d'un point de vue idéologique, le sport permet à cette société hiérarchisée et contrôlée par quelques-uns de se pérenniser, quoi. Donc on fait croire aux gamins qui font du sport, quand en fait ils rentrent dans la compétition pour que les uns écrasent les autres et que le système social dominant continue à dominer.
Oui, je pense que ce que tu dis est assez proche, disons, de ce que j'analyse. Le sport n'est pas un phénomène autonome de la société, n'est pas un phénomène, disons, parallèle. Le sport est de plein pied dans la société, au sens même plus profond que cela. Je pense qu'aujourd'hui, le vecteur, disons, du développement sociopolitique de la société se fait autour du sport. C'est un peu ma thèse. Je pense qu'il y a une espèce de sportivisation de la société. C'est-à-dire que tout est sport. La société est sportive. À tel point, c'est vrai que voilà la forme phénoménale, pour faire un peu philosophique, la forme phénoménale de la société est une forme, disons, qui prend, qui prend la forme justement du sport. Voilà, c'est ça que moi j'entrevois comme tendance, disons, fondamentale de nos sociétés, où les Jeux Olympiques deviennent un élément à la fois évidemment sportif. C'est une compétition, etc. Mais en même temps, ça devient la forme spectaculaire que se donne la société. On nous montre, les Jeux Olympiques sont le lieu, disons, d'une espèce de démonstration de ce qu'est la société aujourd'hui. Voilà, elle est comme ça, elle est sportive aujourd'hui, la société. Vous ne pourrez rien finalement contre cela, puisque tout le monde finalement y a adhéré.
Oui, mais ça, c'est le discours.
C'est pas que le discours.
C'est une constatation, mais un discours qui veut aller encore plus loin.
Voilà, c'est pas que le discours, hein, c'est la tendre. Je pense que les membres du CIO ne sont pas des idiots. Hein.
Pour en être là, non.
Non, monsieur Thomas Bach. Alors avant, le CIO, c'était des aristocrates, hein, de Coubertin, de machin, etc. Aujourd'hui, c'est progressivement. Ça a été remplacé progressivement par souvent d'anciens sportifs, hein, qui sont devenus des hommes d'affaires. Hein. Je pense à des gens comme Jean-Claude Killy, par exemple. Hein. Mais pas que.
Mais Platini aussi.
Pardon ?
Platini,
non, il ne fait pas partie du CIO. Non,
mais il était pareil, c'est un homme d'affaires.
Un homme d'affaires, voilà. Converti, quoi. Il était membre de la FIFA, bon, bref. Mais, et certains membres de la FIFA faisaient partie du CIO. Hein. Je pense, par exemple, à Sepp Blatter, président de la FIFA, et membre du CIO également, hein. Bon, pareil, inversement, l'actuel président de la FIFA, Infantino, un Italien, est membre également du CIO. Et, bon, voilà. Et tous ces gens-là, vraiment, comment dire, pour moi, concentrent vraiment l'idéologie bourgeoise, hein, capitaliste, de manière incroyablement puissante parce qu'elle est opaque. La vraie puissance, si je peux dire, du CIO, c'est qu'on ne sait pas qui c'est. Hein. Alors, on connaît les membres, hein, y en a, voilà. Voilà, on sait les énumérer, mais que sait-on vraiment de leur délibération? Que sait-on exactement, vous voyez, de ce qu'ils veulent décider? Que sait-on vraiment des liens qu'ils ont avec les États-nations,
c'est
avec les grands dirigeants, avec les grands dirigeants du monde, Poutine, le dirigeant chinois, l'Europe, etc., etc. Quand Thomas Bach, qui est président du CIO, se déplace, il est reçu mieux qu'un chef d'État, hein, mieux qu'un chef d'État. Voilà. Donc là, je pense, dans le CIO, se joue vraiment un lieu, encore une fois, totalement opaque. On ne sait pas combien exactement le CIO draine comme argent. On sait à peu près, mais on ne sait pas exactement. Le CIO nous dit évidemment que tout l'argent qu'il récolte, il le redistribue aux fédérations, aux comités nationaux, etc. Bon, seul Monsieur Bach a pu nous dire son salaire. Mais on sait qu'il y a une armée d'avocats. Hein. Vous savez, le CIO, c'est une... Voilà. Donc, il y a là quelque chose, vous voyez, qui pour moi est très, très intéressant et qui est aujourd'hui, je crois, le à mon sens, hein, peut-être que je me trompe, mais qui est vraiment le cœur palpitant, si je peux dire, de ce que veut en quelque sorte la classe capitaliste aujourd'hui, qui est une classe à la fois financière, mais qui est aussi une classe sportive. Hein, voilà, qui est une classe sportive. C'est ça que j'essaye, disons, de montrer un peu dans mes textes, et que j'essaye, disons, sur lequel j'essaye de réfléchir, de voir comment on a une espèce d'osmose, sinon de fusion entre une classe financière, une classe étatique, hein, des dirigeants, et une classe sportive, voilà, dont les Jeux Olympiques sont l'expression la plus visible. Les Jeux Olympiques, c'est quand même 3,5 milliards à 4 milliards de téléspectateurs, hein, c'est pas rien, c'est le seul.
Sur 8 milliards, c'est un sur deux, quoi.
Ah, c'est quand même, plus que le football. Mmh. Hein. Donc, pendant 15 jours, donc sur un laps de temps relativement court, mais qui montre bien aussi la concentration, hein, du capital sportif, hein, de la compétition sportive qui est voilà, ramenée aujourd'hui à 15 jours de compétition. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Hein. Les Jeux Olympiques, disons, au début du XXe siècle, ça pouvait s'étaler sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Hein. Je crois que les Jeux de Paris en 1924, c'était sur plusieurs semaines, je crois 6 mois. Voilà. Alors ça démarrait, une compétition s'arrêtait, etc. Aujourd'hui, non. Et ça reflète bien, vous voyez, l'esprit, je veux dire, du capital, qui est vraiment de resserrer, de concentrer, de densifier la compétition pour qu'elle soit au maximum de son intensité. C'est, je pense, aujourd'hui, vraiment bien la marque même du capital. De ce point de vue-là, je ne pense pas que le sport soit le reflet du capital. Je pense que c'est plutôt presque l'inverse. Hein, pour être un peu pas orthodoxe, je pense que c'est plutôt le capital qui est le reflet du sport. Mais bon, voilà, c'est un grand débat.
Il y a autre chose du côté de la reproduction, moi, qui dans le sport me choque au moins autant que la compétition, c'est la façon dont on parle des sportifs de haut niveau. On va dire que c'est des winners, voire des guerriers. C'est que là encore, il y a un travail idéologique. On accepte d'une certaine manière la guerre, puisque la guerre se pratique sur les terrains de foot. Pourquoi la pratiquerait-on pas en Ukraine ou ailleurs, quoi?
Hein, exactement.
On fait accepter le fait... Ben,
c'est la compétition ultime.
Voilà, la compétition ultime, c'est ça. Ouais.
C'est ce que disait Pierre de Coubertin. J'ai retrouvé un petit texte de lui de 31, 32. Ouais, lui, qui est le fondateur, hein, des Jeux modernes, ouais, ouais. Qui disait qu'il verrait très bien, je vous dis de mémoire, hein, qu'il verrait très bien Des compétitions sportives se déroulaient en pleine guerre, parce que la guerre pourrait s'arrêter un moment, on ferait de la compétition sportive et puis après on reprendrait la guerre. Donc pour lui, il y avait comme une espèce d'intermède, mais en même temps, ça s'associait finalement.
Guerre et sport. Il y a des parallèles qui sont évidents.
Guerre et sport font comme un espèce de tout dans lequel lui il voyait absolument aucune gêne d'une certaine façon. Voilà. Donc c'est vrai que le sport et la guerre, c'est aussi un grand thème. On voit comment les guerres récentes, par exemple l'attaque de la Russie contre la Crimée, ça se fait juste à la fin des Jeux de Pékin, en pleine trêve olympique. C'est pour ça d'ailleurs que le CIO a dans un premier temps exclu les compétiteurs russes et biélorusses, parce que la trêve olympique avait été rompue. Très important, la trêve olympique. La trêve olympique, c'est quelque chose de très important, mais qui est très précis pour le CIO. La trêve olympique, c'est pas comme ça en l'air. La trêve olympique, c'est une semaine avant le début des Jeux olympiques et une semaine après la fin des Jeux paralympiques. Voilà. Donc vous pouvez faire la guerre avant ou après tout ça, mais si vous la faites pendant, c'est pas bien. Et donc le CIO, c'est ce qu'il a fait là d'ailleurs, avec la Russie, a mis les athlètes, a exclu les athlètes. Alors ils étaient déjà exclus avant pour des problèmes de dopage. Les Russes étaient déjà exclus pour dopage. Donc voilà. Mais on voit bien comment sport et guerre sont aussi un élément très lié l'un à l'autre.
Bien, on vient de faire sport, guerre et capitalisme. Mmh. Ce qui est quand même la notion de domination à l'état pur. Parce que tous ces éléments-là sont des éléments dominants. Mmh. D'une petite partie sur une grande masse.
Ouais. Alors, ce qui est intéressant, ce sur quoi il faudrait se pencher, c'est évidemment pourquoi on adhère à ça. c'est quand même assez troublant, je veux dire, d'adhérer à des formes comme ça. Qui nous dépassent, si je peux dire, qui nous contraignent. Quand on essaie d'avoir un petit peu de retrait avec la compétition, on se dit qu'est-ce que ça signifie que de courir 100 mètres en 9 secondes 56 ? Qu'est-ce que ça signifie d'envoyer le javelot à 90 mètres ? Qu'est-ce que ça signifie d'envoyer le poids de 7 kg 257 à 21 mètres ? Etc, etc. Voilà, donc, comment
pour,
se
pour
fait-il...
le poids, c'est compréhensible, ça peut servir à autre chose.
Voilà, mais le javelot aussi. Hein. Oui, qu'est-ce que ça signifie d'un point de vue... d'un point de vue de la conscience qu'on a de son corps, du rapport que l'on a avec la nature, du rapport que l'on a avec, évidemment, avec l'espace, avec le temps, etc.
Ça, c'était une partie de la critique du sport dans les années 70.
Exactement.
Et comment ça se fait que certains partis, pas certains partis, l'ensemble des partis, ne réagissent pas? Parce qu'au début, il y avait quoi? Il y avait la LCR qui avait un peu réagi dans les années...
La FA aussi, puisque je me rappelle d'affiches appelant au boycott des Jeux Olympiques en Argentine.
On était sur les Jeux Olympiques vraiment, tandis que moi je parlais plutôt de critiquer cette notion de sport. Nous, on était beaucoup plus politique sur, justement, dans des pays où les stades n'étaient pas utilisés pour faire du sport. Quoi.
Ouais. Non, là, c'est vrai que cette critique-là, elle vient plutôt de l'extrême gauche, en l'occurrence trotskiste. Ça a été ça à un moment... lié encore une fois ce protagoniste éclairé qui est peut-être encore Jean-Marie Brome, qui a vraiment eu ce coup de force théorique, parce que vous imaginez ce que ça signifie que tout d'un coup remettre en cause quelque chose qui est si profond,
une évidence,
qui semble être exactement une évidence comme allant de soi, je veux dire, donc il a eu ce génie entre guillemets politique de dire le sport c'est pas que des résultats, c'est pas que du bonheur, c'est pas que de la jeunesse qui se met en mouvement, mais c'est aussi une forme disons d'encadrement politique, une forme d'encadrement pulsionnel de la jeunesse. Et ça a beaucoup troublé, évidemment. Alors, à l'époque, il était encore à l'école émancipée. Il y avait une base, disons, socio-professionnelle, les profs d'éducation physique et sportive qui étaient assez virulents contre ce qu'on leur imposait. Le ministère, à l'époque, imposait que les PS deviennent plus sportives. Il s'agissait de détecter les jeunes pour les former et qu'ils deviennent vraiment, qu'ils rentrent... D'abord dans les associations sportives, puis dans les clubs, puis etc. pour ensuite monter.
L'embrigadement.
Voilà, l'embrigade, ce qu'on appelait l'embrigadement de la jeunesse, hein, à travers le sport. Bon, il a été vraiment le premier à dénoncer ça et à montrer voilà que cette forme, disons pyramidale, hein, de la compétition, elle démarre à la base, hein, et la base, c'est les lycées, c'est les collèges, c'est le recrutement, c'est tous ces détecteurs, hein, alors. Et le ministère à l'époque voulait que ça soit les profs de PS qui détectent les voilà. Bon, après les jeunes passaient dans les clubs. Alors là, vous avez des détecteurs, ce qu'on appelle des DTN, hein, détecteurs territoriaux nationaux,
qui viennent filtrer quoi.
Voilà, ceux qui viennent regarder, hein, quels sont les jeunes qui ont des capacités,
pour les courses,
etc. Voilà, exactement. Donc voilà, il a été vraiment celui qui a. Bon, qui a dit réfléchissons à ça. Alors, il y avait quand même un peu avant, hein, évidemment, des gens qui avaient réfléchi. Hein, il y avait, je pense en particulier à la grande thèse de Heinz Riss qui avait écrit ce bouquin sur la sociologie du sport dans les années 20, hein, donc 21, vous voyez, et qui était vraiment un des premiers à dénoncer la compétition. Hein, vraiment un des premiers à dénoncer la compétition. Bon, c'est une thèse qui a été traduite en français d'ailleurs. Enfin, il y a un livre qui a été traduit en français, dont d'ailleurs Jean-Marie Brome s'est bien inspiré, mais qu'il a radicalisé. Hein. Il a montré en quoi le sport, voilà, c'est pas simplement une forme autonome, hein, mais que c'est une forme qui est vraiment celle qui émane en quelque sorte de la société. Voilà. Bon, ça a été son coup de force théorique. Hein. Alors après,
il y a les années 70. Quand voilà, même, après les années 70,
voilà,
c'est
après à l'intérieur. Voilà,
c'est Sexpol, toute cette mouvance,
exactement,
qui remettait en cause assez bien ce genre de structure.
Exactement.
Voire même la grève des footballeurs qui occupe le siège de la Fédération française de football
en 68. Tout à fait.
Qui étaient traités comme des esclaves, faut bien le dire.
Exactement. Ouais, pas de contrat. Enfin, ça. Bon, lui, c'est vrai, Brome a cette histoire particulière, c'est que, bon, il parle allemand couramment, et donc c'est un des traducteurs, hein, de Reich, hein, c'est lui qui a traduit Reich, hein, la lutte sexuelle des jeunes, c'est lui, hein, c'est lui qui traduit Lukács, c'est lui qui traduit Marcuse, etc. Et donc,
oui, mais il y a du politique à l'état
voilà,
pur.
Voilà, là, il est en contact avec des gens qui réfléchissent à cette question, disons, de l'emprise sur le corps, hein, que constitue le sport. Hein. Alors, ce sont des gens comme Boris Frankel, hein, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais Boris Frankel, c'est le trotskiste historique, hein, c'est lui qui a formé Lionel Jospin. On a parlé de Boris Frankel. C'est lui qui a formé Lionel Jospin. Ils faisaient tous partie d'une organisation trotskiste qui s'appelait l'OCI, hein, Organisation Communiste Internationaliste, qu'on appelle les Lambertistes, les Lambertos. Et il y avait cet ensemble de gens autour donc de Boris Frankel, Jean-Marie Brome, des gens comme Vigarello aussi. Hein, Georges Vigarello faisait partie, bien sûr. Lionel Jospin, tous ces gens-là. Voilà. Et Brome a été celui qui s'est vraiment intéressé à la question du sport, hein, à la question du sport. Là. Alors après, bon, il a pu, grâce à Partisan, écrire, hein, un certain nombre d'articles, hein, ce que je vous ai dit. Et puis ensuite, il y a eu vraiment le numéro de Partisan qui a vraiment fondé, alors. Mais qui a donné vraiment beaucoup d'élan, si je veux dire, à la critique du sport, c'est Sport, Culture et Répression, hein, qui était un numéro de Partisan Paris en 68 d'ailleurs, hein, dans lequel il a écrit, sous son nom propre et sans doute sous beaucoup de pseudonymes, voire de noms d'auteurs, il a écrit à peu près sans doute la totalité du bouquin et donc enfin de la revue, et donc c'est lui qui définit vraiment ce qu'est la critique du fondamental du sport, qu'on a appelé ensuite la critique radicale, peu importe, hein, mais c'est vraiment lui qui est là. Bon, alors à l'intérieur des organisations dans laquelle, alors il a quitté l'OCI, enfin il s'est fait vider de l'OCI, hein, parce que bon, c'était une secte assez spéciale. Il a rejoint la Ligue. Moi, c'est là où je l'ai connu, hein, au début des années 70. Là, ça n'a pas été non plus évident, parce que la Ligue, bon, certains comprenaient, mais beaucoup, surtout, ne voulaient pas admettre ça. Hein. Le sport, c'est beau. Vous n'allez pas nous priver de jouer. Les prolos aiment le sport. Alors là, c'était terminé. Mmh. Hein. Le sport est populaire. Alors là, du coup, on ne pouvait plus rien dire. Bon. Alors, donc, il quitte la Ligue, et puis ensuite, voilà, c'est toutes les années compliquées, hein, pendant lesquelles nous avons créé ensemble, avec quelques camarades, une revue qui s'appelait Quel Corps ? Point d'interrogation, où on essaye de maintenir, disons, et de développer la critique du sport à travers, justement, la critique du corps comme institution, hein, politique, où on montre comme en quoi le corps est vraiment l'objet, si je peux dire, central, hein, de la prise, disons, sportive, hein, du capitalisme triomphant, comme on pourrait dire, et qui fait que le sport est à ce point puissant, hein, à ce point puissant. Voilà, un peu l'itinéraire.
Le sport a remplacé d'une certaine manière l'opium du peuple qui était la religion aussi.
Tout à fait.
Parce qu'il y a ces lieux, il y a ces rituels, il y a ces rencontres internationales, sa hiérarchie.
Tout à fait, tout à fait.
Tout ressemblant au Vatican, tout ça.
Alors, l'opium du peuple, c'est vrai que c'est une formule de Marx qui est très belle, hein, mais dont on oublie d'ailleurs souvent la phrase entière. Hein, parce que Marx, c'est vrai, critique la religion comme l'opium du peuple, mais il dit dans la même phrase que la religion, c'est aussi une protestation contre le réel, hein, qu'on oublie toujours de. Donc, c'est vrai, c'est un narcotique, mais c'est aussi une protestation. C'est-à-dire que les gens entrent en religion aussi par protestation contre la réalité. Ça, on oublie de le dire, ce qui a fait réfléchir beaucoup de philosophes par la suite, hein, qui ont compris que dans la forme religieuse, entre guillemets, il n'y a pas que du mauvais. Il y a aussi des formes d'espérance. Hein. Je pense en particulier un philosophe comme Ernst Bloch, hein, qui a montré l'aspect messianique aussi du message christique, hein, à travers l'espoir, hein, que peut donner la forme religieuse, spécifique. Bon. Ça, c'est important, parce que je pense que là, on est un peu au cœur de l'affaire. Je pense qu'aujourd'hui, le sport a remplacé la religion, ça c'est vrai. Mais il l'a remplacé d'autant plus qu'il est devenu vraiment un opium à part entière. Il n'est même plus une protestation contre le réel. Hein, le sport n'est même plus cette protestation contre le réel. Il est vraiment le réel. Il est vraiment le réel. Il est le symptôme même du réel, contre lequel, encore une fois, on a l'impression d'être un fou, de dire que le sport, c'est dangereux, que le sport, c'est mauvais, que le sport, ce n'est pas la culture, etc. etc. Hein, c'est aujourd'hui vraiment vouloir prendre des coups que de dire ça. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Hein. Je pense qu'encore dans les années 70-80, il y avait globalement un refus, hein, de la compétition, du sport, voilà, où tous les gars, on avait une certaine méfiance, disons, par rapport à ça.
Un critique minimum, quoi.
Voilà, hein, il y avait en plus eu la Coupe du Monde de football en Argentine en 78, qui montrait justement le lien entre football et militaire. Hein.
Là, c'était clair,
voilà,
au moins.
Voilà, là, c'était clair. C'était pas clair pour tout le monde. Hein. Les gens nous disaient que le football a été pris en otage. Hein. Le football a été pris en otage par les militaires, détourné, etc., etc. Nous, on montrait, non, le football, c'est une seule et même chose, et c'est lié aux militaires. Hein. Ça participe justement de la militarisation et de la répression des Argentins.
Il y a même des lieux qui sont identiques, les stades.
Exactement.
Ouais. Tu disais tout à l'heure, effectivement, que le sport, c'était l'aristocratie, mais c'est aussi la gymnastique, dont tous les gymnases militaires ont toujours été très liés. Et les premiers formateurs ou profs de gym, c'était des militaires.
Tout à fait.
On pratiquait l'escrime, on pratiquait le cheval d'arçon et toutes ces choses-là. Et donc, il y a toujours eu un lien très proche entre sport et armée, quoi.
Tout à fait. Oui, tout à fait. Hein. C'est vrai que les militaires, hein, ont été très présents, hein, dans le CIO, hein, au tout début. Et c'est vrai que alors on pourrait dire de manière évidemment plus générale, c'est vrai que le sport, hein, ou la compétition sportive est une forme militarisée du corps. Hein. Il s'agit vraiment dans la compétition de soumettre, hein, le corps à des normes, à une injonction, disons, en termes d'esprit, passe de temps et corporellement d'une corporéité très militarisée, le temps, l'espace, le corps, voilà, doit former une espèce d'unité, voilà, qui semble indestructible, hein, qui devrait être indestructible. D'où d'ailleurs les métaphores, hein, que tu disais au début, les métaphores guerrières autour du sport, hein. Quand on voit par exemple les matchs de foot, il s'agit de fusiller le goal, de tuer tel ou tel joueur, bon, etc., etc. Là, il y a tout l'imaginaire, disons, sportif est un imaginaire militaire, guerrier, de violence, hein, contre l'autre et contre soi aussi d'ailleurs, hein. Ce qui est très très important aussi à retenir, c'est aussi la victoire, évidemment c'est la victoire contre les autres, hein, mais c'est aussi une victoire contre soi, hein, ce qu'on appelle le dépassement de soi, ce qui est une pure horreur. Moi, je tiens absolument pas à me dépasser, hein. Au contraire, je tiens à rester moi-même,
hein. Et puis quelle différence il y a entre le gymkhana des gamins et le parcours du combattant militaire?
Ouais,
il n'y en a pas.
Ouais.
Parce que ce qui se pratique dans les écoles, les centres de vacances et tout, c'est chronométré, c'est des trucs, c'est se dépasser, soi-disant avec un côté peut-être plus collectif. Mais ce qui est faux, puisque dans le parcours du combattant, il y a plein de choses de collectif aussi. On retrouve bien les mêmes structures et les mêmes techniques.
Tout à fait.
Ouais. Ce qu'on pourrait peut-être dire aussi, c'est qu'au travers de l'activité physique, le sportif, lui aussi, alors tu disais que c'est une victoire contre soi, quand on voit les efforts que ces gens font en termes de nourriture, en termes d'hygiène...
La vie qui est prise.
C'est terrible, quoi. Hein, j'en parlais avec Loïc Vagan il n'y a pas l'autre jour, sur les boxeurs. Il racontait combien un boxeur est soumis à toutes ces règles qui font que son corps ne lui appartient plus d'une certaine manière.
Le poids chez le boxeur pour passer d'un groupe à un autre, c'est un truc de malade.
Ou ne pas passer.
Oui, ou ne pas passer.
Oui, pour rester juste en dessous du...
Ça veut dire juste avant les combats ou des choses extraordinaires pour perdre son kilo ou des trucs dans le genre. C'est un écrasement complètement du corps. Le corps n'est qu'une matière, c'est pas un soi.
Ça va plus loin que ça, parce que ce que disait Loïc, c'est à la fois il y a le poids et quelque chose comme ça. Pas d'activité sexuelle parce que tu auras moins de, je sais pas quoi, de choses à dépenser, tu peux pas faire ceci, c'est vraiment terrible quoi.
Les gens
se soumettent à une, comment dire, à des normes et à des impositions que tout être humain un petit peu normal entraînerait vers la révolte.
Mais c'est une gestion de rentabilité, c'est tout. Mais c'est une gestion de rentabilité comme dans l'entreprise. On doit faire de son corps quelque chose de rentable pour battre l'autre.
Oui, c'est toutes les formes de l'entraînement. Hein. La compétition, c'est l'entraînement. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution, plus le dopage.
Ça ne pourrait pas tellement progresser.
L'entraînement, ça peut prendre effectivement des formes tout à fait extrêmes, hein, ce que tu disais, où il s'agit de ne pas prendre trop de poids ou d'en prendre plus. Et puis surtout, c'est la forme, disons, quotidienne de l'entraînement, hein, où vraiment, on essaie de nous faire croire que les enfants que l'on intègre dans des écoles, comme par exemple à Clairefontaine. Pour le foot, c'est quand même un lieu assez particulier. Hein. C'est quand même des gamins qui sont arrachés de leur famille. Ils ont 13-14 ans. Et ensuite, on leur dit, c'est sport-études. C'est-à-dire, beaucoup de sport, pas beaucoup d'études. Hein. Et là, les gamins sont mis, hein, dans un entraînement absolument forcené. Hein. Moi, j'avais pu en discuter justement un peu avec Emmanuel Petit, hein, qui venait de cette histoire-là, hein, l'ancien footballeur de la Coupe du Monde. Hein. Il m'avait révélé des choses absolument hallucinantes. Hein. Le nombre de gamins qui sont mal, les tentatives de suicide, etc. C'est absolument terrifiant. Ce qui est très curieux, c'est que les organismes, disons, humanistes, hein, les ne vont jamais voir là-dedans. Hein. Et pourtant, là, on a un lieu, Clairefontaine, qui devrait normalement être inspecté par
les inspecteurs jeunesse et sport, par exemple.
Qu'est-ce qui se fait là-dedans? Comment traite-t-on les jeunes là-dedans?
C'est de la pâte à modeler qu'on modèle,
Moi, j'ai entendu la même chose sur les jeunes tennismen aussi. Pareil, qu'on retire de leur famille, qu'on envoie je sais pas trop où, à qui on fait miroiter mille et une choses. Il y en aura un sur 100 et pourtant ils existent, faut bien le dire quand même. Hein. Voilà. Et puis la natation aussi. Ces gamins qui passent leur vie dans la flotte à faire des allers-retours entre deux murs. Ouais. C'est fou, quoi.
Il suffisait de lire ce que racontait Laure Manaudou, l'ancienne championne olympique, hein, qui racontait les séances d'entraînement avec son coach, hein, dénommé Lukács, pas Lukács, hein, pas philosophe. C'était pas vraiment un philosophe, lui. Hein, donc c'était un entraînement vraiment absolument abominable. Abominable, hein, c'est à base de hurlements, puis de longueur. Voilà, regardez le fond de la piscine, hein, les carreaux, des dizaines de kilomètres par jour. Voilà, hein, avec des chronos qui s'enchaînent, qui se répètent, etc., etc.
Le bagne,
quoi. Voilà, le bagne. Et donc, où les enfants, voilà, ne sont plus des enfants, hein, où ça devient une patte malléable, qui est dominée, coachée, hein, par un entraîneur qui a tous les pouvoirs. Plus que les parents, hein, tous les pouvoirs sur les enfants et même parfois des pouvoirs prédatifs, hein, puisqu'on sait aujourd'hui que dans les fédérations, hein, en particulier en patinage artistique, en natation, le nombre de jeunes qui ont été agressés sexuellement est absolument
statistiquement, il est plus important quand même.
Tout à fait important. Hein, voilà. Donc ça, c'est quelque chose. Vis-à-vis duquel, c'est vrai, par exemple, je sais pas, moi, Amnesty International ou d'autres devraient les regarder de plus près, hein, parce que, et évidemment la gauche. Mais là, on parle de quelque chose.
La quoi?
La gauche.
Voilà, quelque chose qui a, ah ouais. Quelque
on
chose
qui a disparu. On va en parler après, de toute chose façon. Qui a disparu. Allez, on se met un petit moment de musique.
Nous allons bientôt écouter Tears of Fascist Down de Woody Guthrie.
There's a great and a bloody fight round this whole world tonight. In the battle, the bombs and shrapnel rain. Hitler told the world around he would tear our union down. But our union's gonna break them slavery chains. And our union's gonna break them slavery chains. I walked up on a mountain in the middle of the sky. Could see every farm and every town. I could see all the people in this whole wide world. That's a union that'll tear the fascists down, down, down. That's a union that'll tear the fascists down. When I think of the men and the ships going down while the Russians fight on across the Don, there's London in ruins and Paris in chains. Good people, what are we waiting on? Good people, what are we waiting on? So I thank the Soviets and the mighty Chinese vets, the allies, the whole wide world around. To the battling British, thanks, you can have 10 million Yanks if it takes them to tear the fascists down, down, down. If it takes them to tear the fascists down. But when I think of the ships and the men going down and the Russians fight on across the Don, there's London in ruins and Paris in chains. Good people, what are we waiting on? Good people, what are we waiting on? So I thank the Soviets and the mighty Chinese vets, the allies, the whole wide world around. To the battling British, thanks, you can have 10 million Yanks if it takes them to tear the fascists down, down, down. If it takes them to tear the fascists down.
Oui, donc toujours en compagnie de Marc Perelman, autour d'un ouvrage... un ouvrage dont il n'a pas donné le titre, ni l'éditeur, ouais. Sachant que cette invitation de Marc Perelman a été conduite par...
La philanthropie de l'ouvrier, charpentier, et la philanthropie de l'ouvrier, charpentier. Non, mais il faudrait quand même dire qu'il y en a eu un autre, hein, qui est sorti. Football, la défaite des intellectuels, Bordeaux, le bord de l'eau.
Oui, oui, c'est un petit ouvrage que j'ai publié au moment du Qatar. Hein.
Voilà, il y avait quoi faire.
Il y avait de quoi faire, surtout. Voilà, je voulais
le Qatar,
montrer...
c'est le foot, là.
Oui, c'est le foot, ouais. Je voulais montrer comment les intellectuels avaient totalement démissionné, hein, tout simplement, d'une... à part quelques-uns, Lindon, si je me souviens bien, enfin, artiste, hein, disons ça comme ça, artiste. Donc lui, courageusement, hein, il a dit qu'il fallait boycotter. C'est-à-dire qu'il fallait... Le boycott est signifiant quelque chose de très précis. Hein, le boycott, c'est que les athlètes ou l'équipe n'aillent pas. Hein, voilà, c'est ça le boycott, hein, pour moi. Donc il y avait lui, Lindon, Cantona. Bon, voilà, pas spécialement de sympathie pour ce garçon, mais bon, voilà, il avait pris position. Et puis un journal, Le Quotidien de la Réunion, qui avait dit qu'il ne retransmettrait pas, il ne donnerait aucun résultat de la Coupe du Monde. Voilà. À part ça, tout le monde était scotché évidemment devant les écrans, à la grande différence évidemment des années, enfin de la Coupe du Monde en 78, hein, bon, qui a été le moment et l'enjeu, disons, d'une bataille perdue, mais d'une bataille quand même pour le boycott, hein, de cette Coupe du Monde, à travers le COBA, hein, comité pour l'organisation de la boycott de la Coupe du Monde en Argentine.
En Argentine, ça a été assez important, l'opposition, quand même. Ça n'a pas été rien, quoi.
L'opposition a été assez importante en France.
Hein. Il y a eu
évidemment des comités de base, hein, qui ont été créés. 200 comités, 150 000 signatures. La plupart des intellos avaient signé. De l'époque, hein, ils sont tous morts, des artistes et autres. Voilà,
il y a eu quelque chose d'important.
Voilà, même un type du PC, hein, Aragon. Aragon, qui avait quand même signé contre son parti, hein, parce que le PC évidemment était pour.
Pour une fois qu'Aragon était contre le parti,
il fallait bien qu'une fois le noter.
Voilà.
Donc il avait signé cette pétition, hein, et voilà. Et donc on avait fait aussi un pastiche d'ailleurs du quotidien L'Équipe, qu'on avait appelé L'Épique, hein, qui avait été fait avec d'ailleurs des maquettistes, hein, de L'Équipe, et qui nous avaient aidé à fabriquer. On avait vendu ça à 100 000 exemplaires, on avait fait plusieurs. Voilà. Donc il y avait eu un mouvement très important, une grosse manif à Paris. Bon. Ben, c'est vrai que par rapport à ça, il y a tout ça, ça a presque 50 ans. Aujourd'hui, voilà, nous sommes tous les trois autour de ce micro, mais je ne vois plus rien, mais vraiment plus rien, qui ose s'opposer à ce qui ressemble vraiment à une espèce de déferlant, de tsunami, de possession absolument totale, disons, de l'esprit, hein, des choses de l'esprit d'aujourd'hui.
Oui, il y a plus de critiques, parce que là, je ne sais pas si tu as vu, il y a un Iranien qui est membre du CIO, je ne sais pas, ou quelque chose comme ça, qui est un tortionnaire notoire, qui est venu en France.
Ouais.
Il n'y a pas très longtemps, pendant qu'on se fait massacrer, enfin, particulièrement les femmes en Iran, et ce personnage qui est un tortionnaire est reçu parce qu'il est représentant de je ne sais pas trop quoi.
Le comité national olympique iranien.
C'est quand même quelque chose, quoi. Ouais. On n'a pas de dignité dans ce pays, quoi.
Ouais. Non, non, il n'y a personne qui se dresse, quoi. Hein. C'est ça qui est assez troublant, même. Hein. Alors, ça fait réfléchir à ce qu'est la. Alors, ce qui est devenu la critique, ça, c'est assez facile, malheureusement, à s'en apercevoir, parce qu'elle est vraiment réduite à presque rien. Elle a presque disparu, hein, au sens où elle n'a. Bon, elle a encore quelques éléments, ici ou là, des bouts de texte, des petites revues, des petits relais. Bon, par exemple ici, hein, je dis petit,
attention, quand même, hein.
pas péjorative, attention. Mais c'est vrai que, par exemple, pour votre serviteur, j'étais de temps en temps invité à France Culture ou France Inter, et puis le jour même, on me désinvite. Hein, c'est-à-dire que c'est monté dans la hiérarchie, on dit, Perelman, non, pas question. Voilà, il n'est pas question.
C'est contre-courant.
Voilà, il n'est pas question qu'il y ait un mot, hein, qui soit dit contre ce qui va se passer à Paris. Et c'est vrai que, alors là, on peut faire l'état de la gauche et de sa.
Disons, alors, il avait posé une question, Hugues. La gauche, c'est quoi?
Oui, voilà, voilà. Enfin bon. La gauche, l'extrême gauche, hein, aussi, qui est totalement absente, pour qui la vocation critique a totalement disparu. Et pire que ça, hein, alors je ne vais pas tirer sur une ambulance, mais M. Mélenchon, qui au départ était plutôt hostile, hein, aux Jeux Olympiques de Paris, hein, parce que j'ai repris un peu tout ce qu'il a pu raconter depuis 2015, hein, où il disait qu'il était contre. Puis après, en 2017, il dit léger fléchissement qu'il n'est pas favorable. Et puis depuis, il n'est pas question de boycotter Pékin, parce que c'est en 2022, parce que c'est attaquer le peuple chinois, bon, etc. Donc lui, ça y est, il est soumis, si je peux dire, aux Jeux Olympiques. Voilà. Donc il n'y aura pas d'opposition.
Alors, par contre, il y a des oppositions de conséquences. C'est-à-dire, il y en a plein. Tu parlais du parc Valmont qui est à côté de chez moi, ou des choses dans ce genre-là. Là, ça peut intéresser, mais c'est pas une opposition aux Jeux Olympiques. C'est une opposition aux conséquences et en amélioration des conséquences.
Exactement. C'est ça que je crains, disons, dans l'opposition, hein, ou dans les oppositions qu'il y a actuellement aux Jeux Olympiques.
C'est pas vraiment des oppositions.
Non,
c'est sur la forme,
voilà,
des Jeux Olympiques.
Voilà, alors vous avez des oppositions qui se veulent radicales, comme par exemple Saccage, hein, 2024, qui à mon avis Bon, c'est plutôt sympathique. Hein. Déjà, le terme n'est pas bon.
Saccage.
Parce que saccage, je suis désolé, mais c'est pas un saccage hein, qui se passe.
La Seine-Saint-Denis, non, c'est
non,
pas
c'est
ça.
C'est vraiment pas un saccage. La saccage, ou alors les mots ne veulent plus rien dire, mais un saccage, c'est la mise à sac, c'est la destruction,
c'est
la ruine.
C'est prendre les richesses et se barrer.
Voilà, voilà, et le pillage, etc. C'est pas ça du tout. En Seine-Saint-Denis, c'est exactement l'inverse. Hein. On détruit, certes, certaines choses, pas tout d'ailleurs, mais on reconstruit beaucoup. On
pas reconstruit, la même chose, c'est pas pour voilà. Les mêmes.
Non, 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 on reconstruit, mais on reconstruit quand même, hein, on construit, etc. Bon. Alors je me suis un peu penché justement là-dessus. Voilà, donc c'est pas un saccage. C'est pas un saccage. On détruit, c'est vrai, on a détruit certains voilà, jardins ouvriers. Bon, mais on ne peut pas parler de saccage au sens... voilà, au
mais
sens,
c'est surtout bon. Qu'il n'y a rien à prendre.
Voilà, bon. Ça, alors... bon, et puis, j'ai lu un petit peu leur profession de foi, Saccage 2024. C'est vrai que eux ne veulent surtout pas attaquer les athlètes hein, et les supporters. Pour eux, c'est... voilà, non. On les sont pris en otage. Hein, ils sont des gens respectables, etc. Moi, ma critique, évidemment, elle est totale hein, sur les Jeux Olympiques. Et évidemment, elle prend à partie aussi les athlètes hein, qui voilà, sont des citoyens comme les autres. Et qui participent hein, de leur plein gré à cette affaire, hein, qui acceptent voilà de s'entraîner, même si contraints forcés. Mais enfin bon, ils sont pas contraints et forcés totalement. Hein, on peut dire non. Hein,
certains. Faire autre chose, on n'est voilà. Pas obligé d'être de la police. Hein.
Voilà.
C'est ce qu'on disait déjà voilà. Sur les militaires à une époque. Y a-t-il quelqu'un derrière le fusil ?
Ouais, ouais,
y a-t-il un être humain qui a le fusil ? Exactement. Là, on retrouve la même chose.
Exactement. Donc les athlètes sont pas des gens naïfs, innocents. Voilà. Hein, c'est pas des pure patte malléable, hein. Ils peuvent dire non.
Non, mais ils ont été formés à ça, par contre.
Ils ont été formés à ça, ça c'est clair. Hein. Ils veulent ça, hein, je veux dire. Voilà. Mais on peut aussi porter une critique sur, justement, leur volonté de devenir des sportifs. Pourquoi veulent-ils gagner ? Quel titre ? Sur la base de quelle éthique, si je peux dire. Hein. Donc ça, voilà. Moi, je suis aussi pour remettre en cause, évidemment, les athlètes qui, ça, c'est là aussi le grand point aveugle, qui non seulement s'entraîne, mais qui pour être vraiment performant aujourd'hui accepte évidemment tout type de dopage, hein, parce que aujourd'hui le dopage c'est plus quelque chose d'annexe, hein, comme dans les années 60 ou 70, hein, c'est plus quelque chose voilà qu'on prend en plus hein, de l'entraînement. Ça fait partie aujourd'hui de l'entraînement, hein. Ça fait partie intégrante de la manière dont le corps est mis en œuvre par la compétition.
Mais il hein, y a aujourd'hui. Les résultats maintenant, il faut toujours faire mieux qu'avant. Il y a des limites au corps.
Voilà, donc le corps est chimiquement préparé, médicalement préparé, j'allais dire même presque squelettiquement, voire ADNisé. Hein, aujourd'hui, on fait des recherches même sur la transformation ou la possibilité de capter l'ADN et de pouvoir le transformer, évidemment, pour fabriquer des sportifs. Voilà,
oui, hein, on n'est plus dans le sportif humain, on est dans le transhumanisme d'une certaine manière. Hein,
pas loin.
On transforme pas loin. Les corps et les cerveaux.
Pas loin.
Oui, mais le surhomme, ça a toujours été des fantasmes de...
Mais c'était des fantasmes.
Non, non mais
on est presque dans la réalité.
L'Allemagne nazie a beaucoup travaillé quand même là-dessus.
C'est vrai,
et
vrai.
C'est pas pour rien que c'était l'Allemagne nazie qui avait travaillé là-dessus.
Oui, l'Allemagne nazie, c'est vrai.
Les Japonais aussi.
Ouais, et puis, oui. L'Allemagne de l'Est.
Ah oui.
On a surtout oublié l'Allemagne de l'Est parce que la grande caserne sportive, comme disait Brom, la grande caserne sportive, c'était la RDA, qui était un tout petit pays, mais qui gagnait toutes les médailles. Avec des sportives, on ne savait plus très bien si c'était des hommes ou des femmes. Hein. Vous avez encore des records, par exemple le 400 mètres féminin, qui est détenu par une athlète d'Allemagne de l'Est, enfin ex-Allemagne de l'Est, un record imbattable aujourd'hui par une femme, entre guillemets, normalement considérée. Ça pose d'ailleurs d'énormes problèmes au CIO, hein, ce qui sont assez intéressants avec les histoires de transgenre, etc. Voilà.
Les Jeux Olympiques.
Le sport se fonde sur la séparation des sexes.
C'est clair.
C'est clair et net. Je veux dire, la compétition sportive, c'est d'abord la séparation des sexes. Ce que ne veut pas voir la gauche. Bon, ils disent c'est formidable, mais non, mais un 100 mètres, c'est un 100 mètres homme et un 100 mètres femme. Hein. Il y a quelques compétitions sportives où c'est mixte. Hein. Par exemple, les sports équestres, voilà, des petites choses comme ça. Mais ça représente, je crois, 3 ou 4% d'équipes mixtes. Mais le reste, c'est la séparation des sexes. Et elles se fondent là-dessus. Mais personne, voilà, personne ne... Mais pourtant, les féministes devraient dire, je sais pas...
On ne peut pas accepter.
C'est séparé. On est quand même séparés, là. Hein. Il y a quand même un problème de fond. Bon.
Oui, à la fois séparés, et puis avec des valorisations qui sont aussi hiérarchisées.
Ce ne sont pas les mêmes, hein, ça voilà. C'est clair.
Hein. On regarde les salaires, les féministes à juste titre, dénonce le fait qu'il y a un écart de salaire entre les hommes et les femmes dans les entreprises. Mmh. Quand on regarde le monde sportif, à part quelques cas, je pense que c'est les Américaines qui ont obtenu d'avoir le même salaire. Il y a des écarts tout à fait considérables.
Oui, considérables. Tout à fait.
Le sport féminin, sauf quand il devient marchandise, comme c'est un peu le cas pour le football féminin aujourd'hui, au moins en France, n'intéresse pas tous ces gens-là, ou très peu, quoi.
Non. Alors, c'est complexe, hein, évidemment, le sport. Coubertin était contre.
Oui, tu sais que dans ton texte, là, il y a des perles.
Il y a des perles,
oui.
Coubertin, lui, il était clairement contre.
Il en fait un apanage, les perles de...
Voilà, le Coubertin était contre le sport. Contre la présence des femmes, tout simplement. Et lui disait, qu'est-ce que c'est que cette Olympiade femelle? Les femmes sont là pour mettre, la couronne aux hommes. Et puis c'est tout, quoi. Je veux dire, bon, alors là, il a été battu, hein, d'ailleurs, de son vivant, hein. Il a été battu par les autres membres du CIO qui ont compris que c'était pas possible de laisser une partie, disons, de l'humanité, la moitié du ciel, pas dans les stades. Hein. Donc, voilà. Et eux, ils ont dit, non,
tout le monde
va rentrer. Mais, évidemment, de manière séparée, on fait pas courir une femme et un homme. Voilà. Parce que la compétition sportive, non seulement, dans son essence même, elle sépare les individus, selon le genre, hein, selon le sexe, mais il n'est pas question, évidemment, de les comparer, hein, puisque la domination, elle est masculine. Vous ne ferez jamais courir ou lancer quelqu'un, un homme, et voilà. Jamais une femme ne battra un homme. Bon, c'est un fait, disons, biologique, qui est indépassable. Donc là, il y a une aporie, pour parler comme les philosophes, il y a une aporie qui fait que...
Donc une aporie pour les auditeurs, parce que les philosophes, c'est bien, c'est une contradiction qu'on ne peut pas résoudre.
On ne peut pas résoudre, voilà. Hein, c'est, voilà. Mais... vis-à-vis de laquelle les féministes ne cherchent pas à comprendre, hein, ou ne cherchent pas à analyser. Et la dérive, si je peux dire, c'est de comparer évidemment les records entre hommes et femmes et de dire que les femmes tendanciellement pourraient se rapprocher des records. Donc on masculinise en fait, hein, la compétition féminine, voilà, pour nous faire croire, pour nous faire dire que
ça vaut bien
un homme, ou c'est possiblement quelque chose qui a à voir avec la compétition des hommes. Bon, alors là, c'est quelque chose d'assez complexe, hein, parce que comment ne pas être anti-féministe, comme si on dit, moi, je suis pas comme Coubertin, hein, voilà, pourquoi pas, hein. Mais en même temps, je pense que les femmes n'ont rien à gagner, mais alors de leur émancipation, n'ont rien à gagner à participer à des compétitions qui sont à dominante mâle. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Elles sont à dominante mâle. Le champion, c'est d'abord le champion, c'est pas la championne, hein, quoi qu'il en soit. Même si, évidemment, on ne veut pas oublier la moitié du ciel, hein, parce que c'est impossible au XXIe siècle de laisser dans l'ombre la moitié du ciel.
Ouais. C'est marrant, parce que... Enfin, c'est marrant, ça n'a rien de marrant. J'ai l'impression qu'autrefois, on disait du pain et du cirque. Aujourd'hui, on a le cirque, mais on n'a plus toujours le pain, surtout en Seine-Saint-Denis, quoi.
Ouais. Ah ben, c'est complètement ça, mais la focalisation sur le sport, parce que là, je vois, il y a une compétition internationale en ce moment de rugby.
Rugby, oui. Tous rugby.
Voilà, c'est assez extraordinaire. C'est-à-dire que on peut tout abandonner actuellement parce qu'il faut regarder tous les matchs. Même des matchs qui, soi-disant, sont ridicules, 90-0, je sais pas, truc. C'est-à-dire qu'il y a une telle focalisation que plus rien n'existe. On va arrêter de se faire plaisir, on va arrêter peut-être d'aller faire soi-même un peu de sport, on va arrêter d'aller faire des courses, on va arrêter de bouffer parce que je pense que pizza et bière et coca, c'est un truc qui marche aussi avec. Il n'y a que ça. Mais je me demande comment ça va être dans quelques mois. Là, je n'arrive pas à voir comment ça peut se faire. On va arrêter l'école, on va arrêter le travail.
C'est pas impossible. C'est pas impossible, hein,
que... On va arrêter les transports, parce que là, les transports dans Paris, ça va être l'enfer.
Les écolos, pour être radicaux, ont proposé au conseil municipal qu'il n'y ait plus de voitures. Mais je ne sais pas s'ils travaillent, ces gens-là, mais ça veut dire que les gens ne peuvent plus venir travailler à Paris. Hein. Bon, mais de fait, ça sera presque ça. Hein, parce que, je ne sais pas si vous avez lu, il y a eu un décret, il y a une privatisation. Moi, j'ai lu le décret gouvernemental, c'est absolument effrayant. Hein. Il y a 185 voies qui vont être interdites à la circulation. Alors, des rues, des boulevards, des avenues et... une troisième voie du périphérique. Hein. Il y a déjà des entreprises qui ont dit du 26 juillet à la fin août, on met au chômage technique parce qu'on ne pourra pas rentrer dans Paris, tout simplement. Donc là, il y a quelque chose d'assez hallucinant. On a l'impression de revenir au XVIIIe siècle. Hein. Il va y avoir des voies olympiques.
C'est presque l'état de siège, quoi.
Oui, ce sera l'état de siège. D'ailleurs, vous avez vu l'histoire des bouquinistes. Hein, on demande aux bouquinistes de quitter. Et puis, à un moment, on pensait qu'il allait y avoir un peu un accord. Pas du tout. Hein. Le préfet Nunez, il a dit, vous dégagez maintenant rapidement. Donc, ils vont retirer les boîtes qui seront jamais remises en place. Hein, ça faut, voilà. Donc là, il y a pour le coup, il y a une vraie destruction, si je peux dire, hein, de l'âme un peu de Paris, si je peux dire, au profit tout simplement, voilà, parce que il y a des problèmes de sécurité qui sont réels. Hein, ça, je peux vous dire que au niveau de l'armée, de la gendarmerie, de la police, ils sont morts d'angoisse. Hein, en particulier avec la cérémonie d'ouverture. C'est un truc qui me semble, alors là pour le coup, hallucinant. Je vais un peu terminer là-dessus. La grande idée d'Estanguet et Madame Hidalgo, c'est que la cérémonie d'ouverture n'ait pas lieu dans un stade, pour la première fois.
Estanguet, c'est normal, c'est un pagailleur, il avait besoin d'eau.
Donc il a besoin d'eau, exactement.
La Seine.
Et donc c'est la Seine. Hein, et donc la Seine va devenir la Seine olympique. Avec 150 barges, hein, je parle pas des gens là. 150 barges sur lesquelles vont se tenir les athlètes. Hein. Certaines délégations commencent à dire, nous c'est pas sûr qu'on s'installe. Hein. Les Ukrainiens par exemple, ils sont pas sûrs de venir. Hein. Mais surtout devant 600 000 spectateurs installés sur 6 km de long. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça signifie
du point de vue. Ça va pas être n'importe qui non plus.
Voilà, du point de vue de la sécurité. Donc 400 000 places gratuites, hein, qui ont été distribuées, je pense, généreusement dans le 9-3. Je pense que ça va bouger un peu. Hein. Donc là, il y a un risque de catastrophe. Hein. Il y a tous les ingrédients d'un ce que j'appelle un chaos olympique. Hein. J'ai concentré le terme chaos et olympisme. Voilà. Là, il y a quelque chose de vraiment. C'est un pari fou, quoi, insensé. Hein,
Surtout qu'on a déjà vu précédemment que déjà, ça, sur des choses qui sont plutôt quelconques, ça ne marche pas. Il y a eu l'histoire au Stade de France qui a quand même été, dire, comme image de la préparation à la sécurité, qui a été complètement délirant.
Complètement, hein, complètement. Hein. Ouais, non, c'est donc ça, là, il y a quelque chose d'assez insensé, une espèce de pari fou, quoi.
On revient sur ce que tu disais tout à l'heure, on est à nouveau dans une forme de militarisme, c'est le défilé militaire du 14 juillet, revu et corrigé par les sportifs, quoi.
Exactement, parce que ils s'inquiètent beaucoup, évidemment, pour la sécurité, d'autant que les boîtes privées ne sont pas capables, hein, de mettre en place des agents privés, hein, ça demande une formation particulière, et puis le niveau, disons, des boîtes privées qui s'occupent de la sécurité en France n'est pas du tout formé à ça, hein, c'est gérer des flux comme ça, c'est...
Et puis il n'y a pas assez de monde, là.
Et là, ils ont décidé de mettre, d'utiliser l'armée. Donc il y a, la dépêche est parue, je crois, hier ou avant-hier, il y a 18 230 soldats, dont 9 000 aussi réservistes, qui seront présents pour assurer la fête. Alors, il paraît que c'est la fête.
Ouais. Avec des armes de guerre
Des drones, qui seront présents. Donc voilà, c'est cet aspect très paradoxal. Hein. On nous présente comme une fête, hein, la fête olympique, la fête de la jeunesse, la communauté sportive, bon, que sais-je encore.
La fête de la bière.
Le respect, l'aspect pacifique, etc. Mais tout est faux. On sait qu'on est en guerre. En plus, la France est plus ou moins directement en guerre. La France livre des armes à l'Ukraine.
Hein. Oh, et puis elle est en guerre avec beaucoup de pays, hein, de toute façon.
Voilà, nous sommes l'armée française est en conflit avec beaucoup de pays. Donc là, le risque est absolument insensé, hein, parce que dans un stade, pour une cérémonie d'ouverture, c'est relativement, disons, maîtrisé. On peut à peu près, à peu près maîtrisé. Mais là, 600 000 personnes. Enfin, l'ancien préfet de police, monsieur Lallemand, pour qui j'ai pas de sympathie.
Un personnage particulièrement sympathique.
Moi, un personnage pour lequel j'ai pas beaucoup de sympathie, mais il disait c'est une folie. Hein. Et d'autres, par exemple Alain Bauer, qui est un criminologue universitaire, bon, pour qui j'ai pas non plus de sympathie, parle de crime. hein, de folie criminelle. Hein, voilà. Donc il y a quand même là quelque chose, je trouve, d'insensé. Je ne sais pas comment ils vont faire, à moins de effectivement militariser, alors au sens vraiment.
Et les camions et les gens qui sautent.
Non, mais peut-être qu'ils vont faire comme lors de certaines manifestations, c'est-à-dire préventivement mettre les gens qui seraient suspects de tout et de rien dans des lieux d'enfermement. Ça, c'est déjà vu, ça.
Oui, bah déjà ils vident tous les SDF.
Oui.
Je sais pas si vous avez vu ça.
Enfin, les SDF et puis tous les camps de d'immigrés, ouais, quoi.
Tout est viré. Il y en a 30 000. Ils prévoient 30 000 expulsions, si je peux dire. Donc là, on est vraiment comme dans les régimes autoritaires, hein, ou totalitaires. Hein.
C'est exactement pareil. On n'est pas comme on est.
Voilà, c'est exactement pareil. Hein. La misère, vous ne la verrez pas. Alors, certains pays, ils n'ont pas les moyens de les vider, donc ils mettent des palissades pour cacher.
C'était le Brésil, ça.
Voilà, Brésil. Mm. En France, putain, on a les moyens, on va les mettre à la campagne. Hein. Donc, mais s'il y a quand même un aspect absolument inouï, hein, quand même, qui est de... Voilà, que tout d'un coup,
c'est une forme soft, si j'ose dire, de déportation, quoi.
Bon.
Le mot est trop fort.
Un peu fort, d'accord.
Ah bah on les déporte, j'ai pas dit qu'on les exterminait.
On les déplace.
Mais ça veut dire, qu'est-ce qui se passe pour les gens qui habitent Paris?
Je pense que les Parisiens vont fuir. Et ils vont mettre en location.
Parce que, là, il y a de la thune à se faire.
Parce que je lisais un article du Figaro.
Qui drôle de lecture, quand même.
Ah, j'aime bien le Figaro. c'est là où vous avez la bourgeoisie éclairée. Non, c'est les meilleurs. J'écris d'ailleurs dans le Figaro. Hein. Il y a que là où je peux écrire. Le Monde refuse, Mediapart refuse. Bon, bref, il y a que le Figaro qui accepte mes... bon, bref, je les lis. Et récemment, il faisait un article pour nous dire comment se faire de l'argent, en gros, pendant les Jeux. Et là, c'est vrai. Par exemple, la location... de votre appartement, si vous habitez Paris, vous avez intérêt à louer. Hein. Ça peut monter jusqu'à 1 000 euros la nuit.
Ah oui.
La nuit. Hein. Donc, voilà. Hein.
Et si on est sur la petite couronne, on peut
aussi... Si, aussi. Oui,
c'est moins. Alors, si on est sur Saint-Denis, ça ne doit pas être...
Non, à Saint-Denis, ça va être... voilà. Donc, il va y avoir là aussi des formes, disons, vous voyez, de spéculation. Alors, je ne sais pas si c'est ça qu'on appelle l'héritage, mais... Mais il va y avoir des formes de spéculation financière, enfin, minables. Enfin, je veux dire, là, c'est vraiment, tout d'un coup, là, c'est l'appât du gain, c'est le...
Mais c'est pour faire passer la pilule aussi, d'une certaine manière.
Les politiques l'ont déclaré, puisqu'il y a des politiques qui ont signalé que c'était le moment de faire des locations, et que, justement, les Jeux Olympiques vont profiter à des populations comme Saint-Denis, puisqu'ils vont pouvoir louer et se faire de l'argent.
Exactement.
Mais ça a été déclaré officiellement, hein, c'est pas...
Non, tout à fait. Ils sont en lien d'ailleurs avec Airbnb.
Oui.
Airbnb qui est partenaire officiel hein, des Jeux Olympiques. Il y a 14 grands sponsors, dont Airbnb qui est entré il y a pas très longtemps, Alibaba, alors Coca-Cola qui est le sponsor historique, mais Airbnb. Et là, la mairie de Paris essaye de voir comment Airbnb doit pouvoir maîtriser, comme ils disent, hein, maîtriser le montant des locations. Parce que le loyer est libre hein, en France. Hein, donc, vous pouvez le louer comme vous voulez. Hein. Donc là, il y a des gens qui sont déjà un an avant les Jeux Olympiques prêts à mettre 1 000 euros pour un 3 pièces dans Paris pendant un mois. Donc, c'est... Voilà où on en est. C'est l'aspect, l'aspect du fric qui tout d'un coup.
C'est aussi la compétition, hein, ça. Je veux dire, c'est la même mentalité.
Pareil.
Bon, on va peut-être s'arrêter là.
Ouais, parce qu'on va finir par déprimer quand même.
Par contre, Marc, il est bien évident qu'il te faudra revenir, puisque les Jeux Olympiques ont lieu en juillet, mais peut-être qu'on pourrait faire un point. Durant le premier trimestre.
C'est vrai que mon livre s'appelle 2024, les Jeux Olympiques n'ont pas eu lieu. Mais paradoxalement, je serais inquiet qu'il n'ait pas lieu. Hein. Pourquoi? C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Parce que, par exemple, ils n'ont pas eu lieu, les contre-olympiades en 36 n'ont pas eu lieu à cause de la guerre.
Oui.
Mais les Jeux Olympiques n'ont pas eu lieu aussi à cause des deux guerres mondiales. Hein, en 1916. Et en 1940 et 44. Hein. Donc,
bon, ça serait mieux qu'ils aient lieu quand même. Hein.
Donc,
c'est pour les mêmes raisons qu'ils n'ont pas lieu.
Voilà. Moi, vous voyez, paradoxalement, on peut être inquiet.
Okay. Bon, on va en reparler d'ici peu. Et puis surtout, après, on en reparlera beaucoup plus. Hein.
Ouais.
Merci à toi, puis à bientôt.
Merci à bientôt. Hein.
Oui, merci. Salut. Encore.
Merci de nous rappeler. Ciao.
2 de la tarde, 28 minutos en Radio Recuerdos.
Un homme, une femme. Un Rift Valley, Rift Valley. C'est la grande faille d'Afrique, un des traits de la croûte terrestre, visible de la lune, au plus profond de la terre. Seules les forces naturelles les plus puissantes pouvaient donner naissance à un fossé aux dimensions colossales. Du Liban au Mozambique, du Liban au Mozambique. Rift Valley, Rift Valley, Rift Valley. Paysage de fin du monde.
When the Union's inspiration through the workers' blood shall run, there can be no...
Je vais vous dire, les gars, ce qu'il faut faire pour faire augmenter vos salaires. D'abord, parler avec les potes et faire une section syndicale. Tous solidaires, ce sera pas long pour faire la nique au patron. Moins d'heures de boulot, meilleures conditions de travail, les congés payés, les gosses au bord de la mer. Ça semble simple, mais ça l'est pas, et je vais vous expliquer mieux que ça. Pourquoi faut rejoindre le syndicat? Car si vous croyez que le patron va de lui-même vous augmenter, vous serez là au jugement dernier. On sera tous morts et enterrés, au paradis bien sûr, et Saint-Pierre sera un bon patron pardi. Vous savez bien que vous êtes exploité, mais le patron, il dit que non. Il force les cadences à t'en faire crever. Tu peux être viré, mais te laisse pas faire. Faut tous signer une pétition et organiser un meeting. Discutez, donnez votre avis, décidez, faites quelque chose. Patron futé comme un bison trouvera toujours le compte service qu'il enverra dans votre meeting pour moucharder et provoquer. Faudra tout de suite dire au débile que le jaune lui va pas au teint. Arrête de faire la mouche, t'auras pas d'histoire et le mec aveugle retrouvera la vue. Maintenant votre section est créée, vous tenez votre première réunion. Choisissez bien quelques copains pour composer votre bureau. Le patron qui est sourd quand un seul jeune entend très bien le syndicat. Il est beau joueur, hein? Et il est tout seul. Allez les gars, on va le trouver. Mettons que votre boulot soit l'enfer avec un salaire de misère. Le patron se met à gueuler, feignant pas de rallonge enfoiré. Mais regardant par la fenêtre, il voit des milliers de gars unis. Salauds, affameurs, négriers, il bat sa femme, on peut le parier. Les gars le plus dur qui reste à faire, tout sera bon pour vous foutre en l'air. La police, la garde nationale, c'est un crime, une carte syndicale. Vos meetings seront perturbés, on matraquera tous ceux qui bougent. Sale bande de rouges, anti-américains, espions japonais, saboteurs de la défense nationale. Mais chez Ford, ce qu'ils ont compris, et chez Renault, ce qu'ils ont compris, et chez Lip, ce qu'ils ont compris, et chez Rodia Seta aussi, aux joints français, ce qu'ils ont compris, un peu partout, ce qu'on a compris. Si on se laisse pas faire par les fachos, si on se laisse pas faire par les provocateurs, si on se laisse pas faire par les milices, si on se laisse pas faire par les jaunes, par les flics, par le gouvernement, si on se laisse pas baiser par les patrons, eh bien les gars, on gagnera. Enfin, ce que je vous en dis, prenez-le comme vous voulez, mais faites-le.
Bonjour, vous êtes à l'antenne de Radio Libertaire 89.4, émission sur les chroniques syndicales du premier samedi du mois, animée par des militants de la CNT Solidarité Ouvrière. Alors, aujourd'hui, nous avons dans le studio pour la CNTSO Étienne, de la région parisienne. moi-même, Raphaël, donc, du syndicat de l'Union départementale du Val-d'Oise. Et nous avons deux invités. Tout d'abord, nous avons Boubacar, avec lequel nous allons évoquer